Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 5 et nous allons regarder les versets 27 jusqu'à 37, un passage quand même un peu plus long que ce qu'on a vu certaines des autres semaines. Et donc ce sera utile d'avoir le texte devant nos yeux vu qu'on va s'y référer plusieurs fois. Ce soir, nous continuons l'étude donc, du sermon sur la montagne de Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. Et nous avons vu la dernière fois avec Pradi que ce que Jésus avait dire au sujet de son rapport avec la loi, qu'il vient non pas pour contredire la loi, mais plutôt pour l'accomplir, et aussi pour montrer à Israël comment suivre cette loi. Et au verset 21 du chapitre 5, nous avons vu que Jésus a évoqué l'un des 10 commandements, n'est-ce pas ? Tu ne commettras pas de meurtre. Et Jésus nous a renvoyé au cœur et au comportement qui était parfois toléré dans le peuple de Dieu, mais qui, selon Jésus, violait la loi. C'est-à-dire, on disait, bon, on ne commettra pas de meurtre, d'accord, mais il y avait ces attitudes de haine et de colère qui restaient dans le cœur et qui étaient aussi contraires à la volonté de Dieu. Et donc, Jésus appelle le peuple à une pureté et à une sainteté intérieure et pas juste extérieure dans ce commandement. Et ce que nous allons voir ce soir, c'est maintenant regarder l'enseignement de Jésus sur deux autres qui sont basés en tout cas sur deux autres sujets et peut-être aussi deux autres commandements qui sont donc l'adultère et puis les serments, c'est-à-dire quand on jure, quand on va porter témoignage ou de faire quelque chose. Et avant de regarder, j'aimerais juste qu'on garde à l'esprit trois éléments de contexte qui sont importants pour qu'on comprenne ce que Jésus est en train d'enseigner ici. La première chose, c'est que Jésus ici s'adresse à un peuple juif, un public juif qui connaît, en tout cas dans les grandes lignes, la loi de Dieu. Et Jésus est en train de leur apprendre comment vivre en tant que le peuple de l'Alliance. Donc ici, nous n'avons pas juste Jésus qui parle à des chrétiens des siècles et des siècles plus tard, même si c'est vrai que ces paroles s'appliquent à l'Église. On les voit appliquées même à l'Église plus tard dans les Épîtres. Mais Jésus ici est en train de parler à des Israélites pour leur dire comment ils sont censés vivre et appliquer la loi que Dieu leur avait donnée par Moïse. Et donc, beaucoup de ce que Jésus dit, c'est une réponse à certains des défis qu'avait ce peuple juif. Et avec cela, la deuxième chose à comprendre, c'est que le sermon sur la montagne est un exemple concret de l'enseignement de Jésus qui est résumé au chapitre 4, le verset 17, qui dit ceci. Donc, Jésus commence son ministère et on lit que dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et donc, le sermon sur la montagne, à mon avis, c'est vraiment un exemple concret de la prédication au sujet de la repentance pour préparer le royaume de Dieu. C'est-à-dire, la repentance, c'est un changement de vie, un changement de pensée pour s'accorder à la pensée et la vie que Dieu demande. Et donc, ici, nous avons un exemple concret de repentance qui permet au cœur d'accueillir le royaume de Dieu. Et donc, bien sûr, l'opposé, c'est si on rejette ce que Jésus a à dire, on est en train de rejeter le royaume de Dieu qui vient. Et puis, juste la dernière chose qu'il faut comprendre, c'est que Jésus ici est en train d'offrir un autre chemin de repentance que celui qui était offert par les dirigeants spirituels de l'époque, surtout les scribes et les pharisiens. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 20, donc le passage qu'on a vu la semaine passée, Jésus dit « Car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Et Jésus va décrire dans ses exhortations qui suivent une justice donc qui est supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Si quelqu'un voulait accueillir le royaume des cieux et il demandait aux scribes et aux pharisiens « qu'est-ce que je dois faire ?», ils auraient reçu une réponse. Mais Jésus leur donne une autre réponse qui est supérieure. Et surtout, l'aspect le plus important, c'est que ça affecte le cœur et tout l'être, et pas juste certains des actes extérieurs. Mais c'est ce que nous allons voir donc dans notre passage. Ok, avec ces paroles d'introduction, donc lisons Matthieu 5, les versets 27 à 37. « Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. » Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blond ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Bon, nous avons cette série d'enseignements et d'exhortations de Jésus. Et je crois que c'est important de voir le lien entre ce que Jésus dit ici et puis les 10 commandements, qui étaient vraiment un résumé fondateur de toute la loi de l'Ancien Testament. Nous avions vu la dernière fois que Jésus enseigne au sujet du 6e commandement, n'est-ce pas, Exode 20, verset 13, qui dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Et l'enseignement qui suit, c'est un enchaînement logique, parce que Jésus va se référer à plusieurs différents textes de la loi de Moïse, mais on peut identifier deux autres des 10 commandements qui sont vraiment importants, le 7e et le 9e. Si on lit Exode 20, verset 14, donc ce qui vient immédiatement après, dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et puis aussi au verset 16, donc Exode 20, 16, qui dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain ». Et donc, ces commandements de Dieu qu'il avait donnés à Israël au sujet de la fidélité dans le mariage et de l'intégrité et de l'honnêteté, maintenant Jésus va les appliquer vraiment d'une manière correcte et selon le cœur de Dieu ici. Et à partir de ces interdictions, donc Jésus veut montrer vraiment ce que c'est que la fidélité et la pureté sexuelle pour le peuple de Dieu, ainsi que ce qu'est l'honnêteté radicale que Dieu attend de son peuple. Et il faut comprendre qu'une des attitudes à laquelle Jésus est probablement en train de répondre, c'était une attitude qui disait « Comment est-ce que je peux suivre mes désirs et mes passions au maximum sans désobéir à la loi de Dieu ?» Okay, vous comprenez ? Il y avait une pensée qui disait « Bon, quelles sont les limites maximales que je peux atteindre de suivre mes tentations, de suivre mes passions, sans pour autant violer la loi de Dieu ? Et moi, je vais vivre ma vie sur cette limite qui est là. » Et il semblerait que Jésus est en train de répondre à cette attitude de la loi. Parce que Jésus va décrire des situations où à son époque, on suivait plus ou moins la loi à la lettre, mais on ignorait complètement l'intention de Dieu quand il a donné la loi. Et Jésus rappelle sans cesse que le but de Dieu, c'est qu'on lui obéisse de tout cœur, okay, pas juste à la lettre, ou qu'on suive juste des règles. Et je crois donc, avec cela, parfois on entend l'idée, Jésus ici, il présente une nouvelle loi. Et s'il y a des nouvelles choses dans ce que Jésus dit, il est vraiment plutôt en train d'affirmer ce que Dieu a déjà dit, de ramener les gens à l'intention originale de Dieu. C'est pas tellement que Dieu a inventé quelque chose auquel personne n'avait jamais pensé, mais que les gens s'étaient simplement éloignés de ce que Dieu avait voulu. Donc Jésus ici présente vraiment la loi authentique de Dieu dans l'Ancien Testament, loi que lui-même, il va accomplir. Il commence en parlant de l'adultère, et souvent on divise ça en deux parties, mais vraiment, les deux sujets, la convoitise des yeux et le divorce, parlent d'un seul commandement, qui est le commandement de ne pas commettre l'adultère. Et comment, donc, est-ce que, avec cette lentille de comment est-ce qu'on peut contourner la volonté de Dieu tout en obéissant à la lettre de la loi, comment est-ce que cela s'applique avec la convoitise? Nous voyons donc Jésus dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Tandis que la loi donc, disait « Tu ne commettras pas d'adultère », Jésus est en train de dire « Tu ne voudras pas commettre d'adultère. » Okay. Vous voyez la différence. La loi parlait de l'acte, et maintenant Jésus parle de la volonté intérieure de la personne. Et en fait, quand on lit un peu mieux les 10 commandements, nous savons que l'interdiction de convoiter était aussi dans les 10 commandements. N'est-ce pas? Le 10e commandement qui dit, entre autres, « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. » Mais Jésus est en train de dire que le 7e commandement et le 10e commandement sont liés et reviennent du même désir de Dieu, qui est cette pureté intérieure et cette fidélité à son conjoint qui vient du cœur. Quand Jésus dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur, le problème ne semble pas être l'idée de ressentir de l'attirance physique, ni de remarquer la beauté de quelqu'un du sexe opposé. Mais Jésus dit, c'est de regarder quelqu'un afin de la convoiter. C'est-à-dire de regarder une personne et de se servir de son imagination pour l'imaginer nu, en train d'avoir des relations sexuelles, pour fantasmer. Jésus est en train de dire que cette attitude-là, on peut se dire, je suis en train de rester fidèle à mon conjoint, ou je ne suis pas en train de commettre l'immoralité sexuelle, mais que notre cœur est déjà en train de le faire. Et on est déjà en train de violer le commandement de Dieu. Tout comme le meurtre commence dans le cœur, n'est-ce pas, par la haine et par la colère, l'adultère aussi commence dans le cœur, avec la convoitise. Et Jésus avertit que cette convoitise mène à la mort. Il est vraiment très dur et très direct ici. Et qu'il faut donc tout faire pour ne pas entrer dans cette tentation. Le frère de Jésus, Jacques, avertit les chrétiens de la même manière. Dans Jacques chapitre 1, le verset 15, il dit ceci. « La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. » Et donc, Jésus répond à une première esquive, entre guillemets, du commandement de Dieu contre l'adultère qui dit « Je ne vais pas commettre l'adultère en pratique, mais je vais le faire en pensée. » Et sa réponse, c'est « Un adultère dans le cœur, c'est déjà un péché contre Dieu. » Et il demande, ce que Dieu demande de nous, c'est la pureté du regard et des pensées. Et c'est quand même quelque chose qui est assez difficile dans notre culture aujourd'hui, en particulier. Si vous lisez un peu le journal chaque semaine, vous verrez presque une semaine sur deux des scandales qui arrivent même au niveau des écoles primaires ou secondaires où les enfants sont en train de partager la pornographie entre eux sur leur téléphone. Nous vivons dans une culture qui est saturée, entièrement saturée, d'images qui sont là pour susciter la convoitise des yeux et du cœur et pour nous encourager à commettre l'immoralité dans notre cœur. Et c'est extrêmement difficile, donc, d'obéir à Jésus pour cela. Mais malgré la difficulté, Jésus ici dit que nous sommes responsables de notre pureté intérieure, même s'il faut trouver des solutions radicales. Et Jésus nous dit de prendre des décisions et d'agir concrètement pour rester pur au niveau du regard et au niveau des pensées. Et trois conseils pratiques qu'on peut suggérer ici. La première, bien sûr, c'est ce que Jésus dit par cette illustration d'arracher son œil droit ou de couper sa main droite. Sans doute, Jésus ici est en train de parler d'une manière figurée et hyperbolique parce que quand on regarde l'histoire de l'Église, vous lisez le livre des Actes, il n'y a pas un rituel où les chrétiens sont en train de se couper les mains ou de s'arracher les yeux. D'accord. Et dans l'histoire de l'Église, c'est la même chose. Et d'ailleurs, je suis sûr que même si on s'arrachait un œil, on se coupait une main, la tentation peut toujours être présente. Mais Jésus est en train de dire ici, s'il y a des situations, s'il y a des personnes, s'il y a des objets qui vous mettent dans une position où vous savez que vous allez pécher de cette manière, il faut une séparation radicale. Même si cela nous coûte quelque chose. Même si cela nous coûte beaucoup. J'ai l'occasion de parfois parler de ce sujet avec des jeunes qui luttent, parfois même à l'âge de 13-14 ans déjà, avec la pornographie et toutes sortes de choses. Et la seule solution pour eux, c'est de se couper de leur accès à ces choses. Sinon, ils seront entièrement incapables de s'en sortir. Et ils en sont déjà conscients aussi. Et si ça s'applique aux jeunes, ça s'applique à nous aussi. Nous savons dans quelles circonstances nous sommes tentés. Nous savons dans quelles circonstances nous cédons à la convoitise des yeux. La question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que nous allons faire pour ne pas nous mettre dans ces situations. Et donc ça, c'est vraiment le point de départ, c'est de savoir faire une rupture avec ces occasions de péché. Mais une deuxième chose qu'il faut mentionner aussi, c'est que la confession avec une personne de foi et une personne de confiance qui peut nous aider à rester fidèle est vraiment essentielle aussi. Un des plus grands pièges de ce genre de péché, c'est d'essayer de régler le problème tout seul et on n'arrive pas à s'en sortir. Et Dieu, dans sa grâce, nous a donné l'Église pour qu'on ait des frères et des sœurs qui soient capables de nous aider à confesser les péchés, à être pardonné, mais aussi à grandir dans notre lutte avec le péché. Et une troisième chose vraiment essentielle aussi, c'est de, si on se prive, on prive nos yeux, on prive nos expériences de certaines choses, il faut les remplacer par quelque chose de bon. Et il nous faut une nourriture des yeux, une nourriture des oreilles, qui est saine et qui nous aide à grandir dans la sainteté. Et il y a des choses très, très basiques, n'est-ce pas? Bon, on vient ensemble en tant qu'église, on chante, on prie, on écoute des messages, mais la lecture personnelle de la parole. Il y a des livres qui sont écrits avec des méditations journalières aussi pour nous aider à penser à Dieu, nous focaliser sur lui. Des moments de solitude que nous consacrons à la réflexion et à la prière. Si nous n'avons pas ces moments dans la journée, si la seule fois qu'on est exposé à la parole de Dieu, c'est 25 minutes ou 35 minutes tous les dimanches, nous n'aurons pas les forces nécessaires, la richesse nécessaire pour vivre avec la pureté. Mais voilà, j'aimerais faire plus, mais c'est quand même un passage assez long. Voilà ce que Jésus dit sur la pureté. De dire « je ne commets pas d'adultère », mais de vivre avec ce péché à l'intérieur de notre cœur, cela ne correspond pas à la sainteté qui vient de Dieu. Mais Jésus, tout de suite, il va passer à des paroles qui sont considérées comme plus difficiles et plus dures aujourd'hui, et peut-être c'est certains des versets les plus débattus au niveau pratique dans la vie de l'Église aujourd'hui. Et c'est comment les Israélites violaient le commandement sur l'adultère par le divorce. Et on ne va pas passer énormément de temps sur ce passage, même s'il y a vraiment quelques points importants à souligner, parce que Jésus revient sur ce même sujet dans Matthieu 19, les versets 3 à 12. Donc si ça vous intéresse déjà, pour vous-même, d'aller relire Matthieu 19, les versets 3 à 12, Jésus reparle de la même question du divorce avec les pharisiens. Mais la loi du divorce de l'Ancien Testament est basée sur Deutéronome chapitre 24, et puis versets 1 et suivant, et puis l'Exode chapitre 21, les versets 10 à 11. Et c'est là où on trouvait dans la loi de Moïse comment on devait faire un divorce. Et à l'époque de Jésus, le divorce était pratiqué régulièrement dans la société juive. C'est dur d'avoir des données exactes parce qu'on n'a pas des recensements de tous les divorces. Mais nous savons, par exemple, que lorsque Jésus dit aux disciples que le divorce est presque totalement interdit, ça c'est au chapitre 19, leur réaction c'est quoi? Bon, si tel est le cas, mieux vaut ne pas se marier. Donc même les disciples de Jésus, quand ils entendent que Dieu est contre le divorce, leur réaction c'est alors il ne faut pas se marier. Parce que le divorce était tellement accepté, faisait tellement partie de comment on voyait le mariage à l'époque. On sait en tout cas qu'une pratique se développait à l'époque, était peut-être déjà complètement développée, de divorcer, que les hommes pouvaient divorcer leur femme pour n'importe quelle raison. C'est-à-dire on choisissait un prétexte où on n'aimait pas sa femme, on pouvait signer une lettre de divorce, on lui donnait, et puis maintenant elle était libre de se remarier à qui elle voulait, et le mari aussi. En tout cas, à la fin du 1er siècle, c'était une pratique courante et ça commençait déjà probablement à l'époque de Jésus. On veut divorcer, bon, on écrit une lettre et puis le problème, entre guillemets, est réglé. Et même, ça c'était surprenant, mais les femmes aussi avaient le droit de commencer un divorce à l'époque. C'est pas dans la littérature, mais ils ont trouvé les fragments de papyrus qui ont des lettres de divorce qui ont été intentées par l'épouse aussi. C'était plus difficile, elles devaient passer par un tribunal pour pouvoir avoir un divorce, mais les femmes pouvaient divorcer leur mari aussi. Donc, ça nous surprend un peu, mais Israël, à l'époque, était saturé de divorces. Et les gens le faisaient, il semblerait, en bonne conscience, en se disant, bon, je divorce ma femme, surtout quand même, c'était la pratique la plus courante. Je divorce, je me remarie, je me divorce, je me remarie, mais je suis en train de suivre la loi de Dieu. Je ne vis pas dans le péché, je ne suis pas en train de violer ce que Dieu demande. Et Jésus, là, vraiment, il choque les consciences. Okay? Il est très direct. Il dit clairement que le divorce, c'est péché. Et plus tard, au chapitre 19, il verra, le divorce, c'est péché, c'est dans la loi, parce que Dieu veut donner quand même une issue à des gens qui vivent avec des personnes dures de cœur à cause de différents, de la chute et des conséquences du mal dans l'être humain. Mais que le divorce ne vient pas de Dieu. Le divorce ne fait pas partie du plan de Dieu, pas plus que l'adultère ne fait partie du plan de Dieu. Et donc, Jésus enseigne à ceux qui l'écoutent que ceux qui prétendent suivre Dieu ne doivent pas se contenter de dire « je me suis divorcé et puis je me suis remarié, alors tout va bien okay. ». Ces personnes-là sont en train de vivre contrairement à la volonté et au plan de Dieu. L'appel pour les disciples de Jésus, c'est la fidélité radicale dans le mariage. Oui, et il faut souligner aussi quand même, Jésus fait une exception là pour l'immoralité, n'est-ce pas, quand il parle du mariage. Paul, lorsque lui, il écrit à l'église de Corinthe, il va aussi parler de circonstances où une femme chrétienne est abandonnée par son mari païen. Et là aussi, il y a des circonstances où elles peuvent se remarier. Mais pour nous, et je crois que ça c'est important au niveau de l'attitude, le but, c'est pas d'être comme les contemporains de Jésus et de dire, bon, quelles sont toutes les exceptions où j'ai le droit de me divorcer. Ouais, ça, c'était justement la mentalité qui avait mené à tous ces problèmes. Jésus est en train d'enseigner le but, c'est comment est-ce que je peux être fidèle à mon époux ou à mon épouse? Comment est-ce que je peux marcher dans la sainteté et dans la fidélité tous les jours? De la manière la plus simple, Jésus a cet enseignement au sujet du mariage qui est énoncé clairement dans Matthieu 19, verset 6. C'est que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Et voilà l'attitude à laquelle nous sommes appelés vis-à-vis du mariage. Et de nouveau, hein, Jésus est en train de dire cela parce qu'il parle à un peuple qui croit être le peuple élu de Dieu, mais en même temps est en train de vivre une culture de divorce facile. Et cela ne correspond pas au caractère de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle, radicalement fidèle. Mais son peuple est en train d'être un peuple infidèle les uns envers les autres, même dans l'alliance la plus forte qui peut lier deux êtres humains, qui est l'alliance de mariage. Et donc, Jésus est en train de corriger le tir ici. Il n'est pas en train de nous faire une liste de toutes les exceptions de toute la loi. Ce n'est pas le but de Jésus ici. Mais c'est de vraiment inviter le peuple de Dieu à revenir à cette fidélité que Dieu a pour eux. De nouveau, hein, l'Église aujourd'hui peine à lutter contre le divorce. Nous avons tous des membres de nos familles qui sont divorcés. Et cela, bien sûr, leur brise le cœur, nous brise le cœur aussi. J'ai tout juste 30 ans, mais j'ai déjà des amis de l'université qui sont divorcés, et voire divorcés et remariés et en quelques années. Et c'est incroyable. Et c'est des amis chrétiens qui ont grandi dans l'Église, qui ont épousé des personnes qui ont grandi dans l'Église. On voit les conséquences tout autour de nous. Ça nous affecte dans l'Église et bien sûr encore plus à l'extérieur. Nous avons tellement d'amis et de connaissances qui sont divorcés, qui sont séparés, qui sont en train d'être divorcés, etc. Et donc, comment répondre à ce défi en tant qu'individu et en tant qu'Église aujourd'hui? Et bien sûr, je ne vais pas résoudre tous les problèmes ce soir, hein, mais mes trois idées quand même essentielles. La première, c'est de reconnaître que le mariage, c'est un engagement à vie. Pour beaucoup de personnes, pas pour tout le monde bien sûr, mais pour beaucoup de personnes dans notre société, le mariage, c'est un engagement jusqu'à ce que on se supporte plus l'un l'autre. Et après, on se marie avec cette idée qu'on veut pas divorcer, mais c'est toujours une issue qui est là. Et en tant que chrétien, le but doit vraiment être de voir notre mariage, notre engagement envers notre époux, notre épouse, comme un engagement à la fidélité pour la vie. Nous avons aussi le besoin d'équiper les familles, d'équiper les couples et de s'aider les uns les autres à être fidèles et à être purs. En tant qu'Église, d'avoir les ressources et le soutien nécessaires et en tant qu'individu. C'est-à-dire comment est-ce que je peux aider mes amis qui sont mariés à rester fidèles. Et troisièmement, lorsqu'on est confronté à la possibilité d'une rupture ou d'un divorce, c'est de toujours chercher la réconciliation dans les relations, si elle est possible. Et on reconnaît qu'il y a des situations où la réconciliation est impossible à cause d'un des parties. Mais autant que possible de chercher la paix et la réconciliation, tout comme Dieu l'a fait pour son peuple. Et ça doit vraiment être une des missions de l'Église, c'est d'être des soutiens et des leaders dans la réconciliation dans les couples. Et de nouveau, nous connaissons, on ne va pas les nommer, mais nous connaissons des couples qui auraient pu facilement se divorcer, mais qui ont fait l'effort nécessaire, aidés par l'Église pour se réconcilier. Et c'est une grâce devant Dieu. Il y a énormément de bien qui a été fait. Bon, le commandement est simple, tu ne commettras pas d'adultère. Mais les hommes ont trouvé des moyens de contourner ce commandement. Et Jésus nous rappelle à l'essentiel. C'est de tout notre cœur à chercher la fidélité et la pureté. On va brièvement regarder le dernier qui est là. Et c'est cet enseignement de Jésus au sujet des faux témoignages, des parjures et des serments. Jésus dit donc que le commandement c'était « Tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments ». Mais lui dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, de ne pas jurer. Et de nouveau, on revient aux pratiques qui était courante en Israël à l'époque et qui était enseignée par les dirigeants. De nouveau, c'est un texte qu'on va revoir plus tard, donc on va faire un résumé. C'est dans Matthieu 23, versets 16 à 22, Jésus va décrire l'enseignement des pharisiens. Mais il semblerait qu'à l'époque, on avait la langue facile quand on faisait des promesses. Et qu'il y avait tout un système, pas légal, mais tout un système de décodage des promesses que les gens faisaient. En fonction de ce sur quoi on jurait, le serment avait une valeur ou pas. Donc, bien sûr, si on faisait un serment sur le nom de Dieu, alors là, ça comptait. Mais pour d'autres choses, ça comptait pas. C'est beaucoup plus tardif, mais il y a même des textes rabbiniques de quelques siècles plus tard qui sont entièrement concernés juste par quels sermons sont valables et quels sermons ne sont pas valables. Et il y a des livres entiers qui sont juste pour ça. Donc, si on jure sur la terre, ça compte pas. Si on jure sur le ciel, ça compte, etc. Jésus nous donne des exemples aussi. Et donc, ce qui semble être arrivé, c'était... les gens étaient arrivés à un point où ils disaient, Dieu dit, il faut garder les serments qu'on fait sur Dieu, mais pour beaucoup d'autres circonstances, on va trouver l'excuse pour ne pas le faire. Et donc, on ne pouvait pas faire confiance aux gens. D'accord. Ça, c'était vraiment l'idée. Qu'on se servait d'expression pour contourner la vérité, pour faire un serment, mais qui n'était pas vraiment un engagement personnel. Et de nouveau, allez lire Matthieu 23, 16 à 22, pour voir un peu une description à quel point c'était ridicule, cette chose. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est tout simplement une honnêteté parfaite. Hein? C'est certains ont appelé ça une honnêteté radicale, mais en fait, c'est juste de dire la vérité dans toutes les circonstances. De ne pas se servir des sermons, ça c'était ce que les gens faisaient à l'époque, comme un prétexte pour mentir, pour ne pas dire la vérité. L'honnêteté des disciples de Christ doit être si parfaite que les jurons, les vœux, les sermons ne sont plus nécessaires. Parce que quelqu'un parle et on sait qu'il dit la vérité ou qu'elle dit la vérité. La parole des disciples est toujours si digne que confiance que rien n'a plus de valeur que leur oui ou que leur non. Et la logique qui est derrière, et quand Jésus va commencer à citer les différents exemples, le ciel, la terre, la ville de Dieu, etc. L'idée ici, c'est que tous les aspects de la vie, sur terre comme au ciel, sont liés à Dieu, que Dieu est présent dans toutes ces choses. Et donc, toute parole ou toute promesse que nous faisons se fait devant le trône de Dieu. Vous voyez l'idée ? On n'a pas besoin d'invoquer Dieu pour que ce soit fait devant Dieu, où Dieu est un témoin. Et donc, lorsqu'on se dit, on s'engage envers quelqu'un de quelque chose, Dieu est déjà le témoin de cette parole. Et en tant que le peuple de Dieu, notre responsabilité est de garder la parole. Et de nouveau, c'est parfois une plus grosse lutte que ça devrait l'être, n'est-ce pas, au niveau individuel. Mais un de mes boulots à l'université, j'étais assistant pour un prof de Bible. Il enseignait le Nouveau Testament et les missions. Et j'étais la personne qui devait corriger les devoirs. Vraiment un travail fascinant. J'ai 120 élèves et je dois corriger tous les devoirs. Et c'était choquant à quel point les gens étaient prêts à tricher sur des devoirs pour leur cours biblique. À la limite, on s'attend à ce que les gens trichent pour leurs cours de maths. D'accord ? Mais là, on est en train de faire les cours bibliques, et puis il y a des gens qui sont en train de tricher pour leurs devoirs sur la Bible, qui n'ont pas lu leurs devoirs, qui ont copié sur quelqu'un d'autre et tout. Et c'est vraiment un problème qui, c'est pas juste un problème du dehors, n'est-ce pas ? Mais ça nous affecte aussi en tant que chrétiens. Et la question pour nous, c'est quand est-ce qu'on est appelé à être honnête, vraiment entièrement honnête avec les gens ? Et la réponse, c'est toujours. Quand on remplit notre déclaration d'impôt, qui est heureusement terminée maintenant, on a passé le 15 mars, mais de le faire honnêtement, de ne pas cacher ce qu'on pourrait cacher ou de mal représenter ce qu'on fait juste pour économiser de l'argent. Quand on parle avec notre époux ou notre épouse de différentes questions, peut-être qu'on s'est planté sur quelque chose et puis elle nous demande ou il nous demande, qu'est-ce qui s'est passé là ? On trouve une excuse parce qu'on n'a pas envie d'admettre qu'on s'est trompé. De parler avec, quand on parle avec notre employeur, avoir une honnêteté, une intégrité parfaite qui est là. Et l'appel pour nous, c'est d'être des gens qui sont honnêtes dans les grandes choses et dans les petites choses. Et on n'a pas besoin de le dire à tout le monde tout le temps, mais ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est qu'on aura une réputation de personnes qui disent la vérité, de personnes dignes de confiance. Et la gloire pour cela revient à Dieu, parce que Dieu est intègre, Dieu garde sa parole, et nous voulons être comme lui. Et voilà ce que Jésus demande de nous. C'est de dire toujours la vérité avec honnêteté et avec confiance en Dieu de nous garder, même lorsqu'on a peur des conséquences, lorsqu'on dit la vérité, avec amour, bien sûr. Bon, Jésus, merci pour votre écoute, mais Jésus nous appelle à non seulement garder la lettre de la loi, mais de chercher Dieu de tout notre cœur. Et Christ nous appelle à une pureté et une fidélité totale. Et ça, c'est vrai pour les gens mariés et les gens non mariés aussi. Jésus demande notre cœur, pas juste les actes externes. Et nous devons rechercher cela de tout notre cœur. Dieu demande une honnêteté, une intégrité parfaite dans nos paroles et dans notre comportement. Et avec cela, quand même, il y a toujours cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que avec cet appel à la sainteté, il y a la promesse du pardon de Dieu. Et si vous êtes brisé par vos luttes et vos échecs dans ces domaines ou dans d'autres domaines que Jésus va mentionner, la réponse n'est pas le désespoir. Et la réponse de Jésus n'est pas le désespoir, mais c'est le pardon de Dieu et la sanctification par l'Esprit. Jésus prêche une bonne nouvelle. Et si nous sommes sans force, Christ nous donne la force par son Esprit si nous lui demandons et nous permet de surmonter les épreuves. Si nous demandons le pardon, bon, Dieu est fidèle, car il a promis d'accorder son pardon et de nous restaurer. Jésus vient et il proclame l'évangile. Il proclame une bonne nouvelle. Et c'est celle de la vie abondante dans le royaume éternel du Père. Et cela ne vient pas de nos forces ou de notre détermination, mais de la grâce de Dieu.